Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 59. Salut Benny.
Salut Steve. La pêche.
Ouais, ça va et toi?
Oui, ça va.
Donc j'avais promis quelques petites explications sur le fait qu'on a enregistré un petit peu plus tard sur Facebook. On aurait dû enregistrer hier samedi après-midi pour pouvoir monter le podcast et le sortir le dimanche. Malheureusement, un de mes collègues au taf est malade et donc il a fallu que je le remplace à la dernière minute. Bilan, pas possible d'enregistrer, nos emplois du temps ne correspondaient plus et il a fallu trouver un petit moment. Donc c'est ce soir, dimanche, il est, je sais pas, 21h30, un truc comme ça. Donc c'est la preuve qu'on vous aime très fort puisqu'on vous fait des podcasts à une heure
indécente.
Complètement folle.
Et tu viens
parce
de dire
21h30,
qu'on
c'est tard.
Ouais, tu viens de dire qu'on enregistrait sur Facebook.
Non, c'est ce que j'avais dit sur
oui,
Facebook.
Non, mais je sais, oui.
Un petit message pour m'excuser du retard et que les gens soient prévenus. Avant de commencer le numéro de la semaine, je vais quand même donner la réponse du fameux jeu de mollet de la semaine dernière.
Oh là là là, t'es sûr que tu veux pas garder ça pour la fin?
Allez, gardons ça pour la fin, ça fera du suspense.
Ben oui,
pour ceux qui attendent,
bien sûr.
Ce sera à la fin. On commence donc par le numéro de la semaine, ce sera le Tales of Suspense numéro 59.
Alors, laisse-moi deviner. La première apparition de Captain America en solo.
Ouais, pendant le Silver Age.
Ouais, en fait, bon, voilà. Il me l'a dit avant l'enregistrement.
En fait, le numéro 58, Captain America venait faire un tandem avec Iron Man, puisqu'Iron Man était publié dans Tales of Suspense, avant d'avoir son propre titre. Et finalement, ils ont mis Captain America en solo, donc le numéro était coupé en deux histoires. On avait une première histoire d'Iron Man, et une histoire de Captain America ensuite, à partir du numéro 59, et ce jusqu'au numéro 100, jusqu'au changement du titre qui deviendra donc Captain America au numéro 101, et Iron Man ira vers son propre titre, donc Iron Man numéro 1.
Donc Captain America n'aura pas 100 premiers numéros.
Mais peut-être par rapport au fait qu'il y avait déjà eu des comics publiés dans les années 40, c'est peut-être pour ça qu'ils ont préféré garder Captain America au numéro 101. Mais c'est comme Incredible Hulk, hein, qui était Tales to Astonish avant, et qui est devenu Incredible Hulk. On a aussi l'exemple de... Et ben voilà, ça vient de m'échapper, j'ai venu y penser à l'instant.
Ant-Man, non, je sais pas.
Non.
Doctor Strange.
Non plus, c'est pas grave, ça
Thor,
reviendra.
Thor.
Oui, Thor, voilà, merci. Ouais. John Into Mystery, qui deviendra Thor ensuite... Voilà, merci. Le blanc. J'y pensais quand je disais Hulk, et puis du coup, le temps que je finisse ma phrase, c'était parti. Bon voilà, c'était scénarisé par Stan Lee, dessiné par Jack Kirby. Bon, franchement, il se passait pas grand-chose d'intéressant dans cette histoire. Captain America est de service à la Avengers Mansion, et se fait attaquer par des gens qui décident de se frotter à Captain America, parce que c'est le seul Avengers sans pouvoir. Finalement, il leur met une branlée, et ça s'arrête comme ça. C'est vraiment un tout premier épisode, tout petit, mais... Ça avait le mérite d'être la première histoire solo de Captain America du Silver Age.
D'accord. Et la première aussi longue, finalement, aussi.
Ben non, ça faisait 8-10 pages. 10 pages,
ah, d'accord, simplement. Okay.
Ouais, parce que du coup, l'épisode faisait toujours autant de pages, mais était coupé en deux, puisqu'on avait une première histoire d'Iron Man face au Black Knight, d'ailleurs, dans cet épisode.
Ok.
Bon. On va passer aux news, maintenant.
Donc, niveau news, on va peut-être commencer par le principal cette semaine, Marvel.
Oui.
Bah, il s'est pas passé grand-chose, hein, honnêtement, niveau news cette semaine, mais la news dont tout le monde parle actuellement, c'est le nouveau Ultimate Spider-Man, sa nouvelle identité qui a été révélée cette semaine dans l'Ultimate Fallout numéro 4.
Que Marvel avait gentiment fuité aussi juste avant la sortie, comme d'habitude.
Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on savait que Peter Parker allait bel et bien mourir, puisque...
Mais c'est simple, en gros, si vous voulez vraiment pas savoir, vous ne regardez plus les sites d'infos, vous regardez plus rien à partir du dimanche jusqu'au mercredi. Vous achetez vos comics, vous les lisez, et après vous reprenez la lecture. Parce qu'apparemment, Marvel aime bien fuiter la veille ou l'avant-veille de la sortie du comics.
C'est ça.
Franchement, quel est l'intérêt s'ils veulent plomber le marché? Enfin, un numéro où on te dit qu'on va te révéler l'identité de Spider-Man, enfin du nouveau Spider-Man de l'univers Ultimate, normalement ça devrait être au minimum un petit carton, quoi. Enfin en tout cas un petit succès. Si t'as la news de révéler que tu veux juste savoir qui c'est, bah tu vas pas acheter le comic, quoi.
Exactement. Mais oui.
Ouais, c'est très con.
Oui, mais en même temps, c'est Marvel, donc...
J'ai pas osé le dire, mais bon, voilà.
Dernièrement, donc, alors, par contre, au-delà de ça, donc, Spider-Man Black, ça a fait beaucoup de bruit sur Internet. Beaucoup de gens sont super contents que Spider-Man soit Black. Enfin, que le nouveau Spider-Man dans la version Ultimate soit Black. Et alors, toi, quelle est ta réaction par rapport à ça? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise? Est-ce que tu t'en fous, finalement?
Alors, moi, perso, qu'il soit Black, qu'il soit Asiate, qu'il soit Hispanique, quoi que ce soit, j'en ai honnêtement strictement rien à battre.
Oui, comme moi, en fait.
À la rigueur, je trouve ça pas plus mal, parce que c'est un personnage populaire. Après tout, un personnage populaire qui va vendre. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de personnages, on va dire, typés, pour être à peu près politiquement correct, des personnages majeurs. Bon bah voilà, tant mieux, là il y a un personnage majeur qui est typé, bon bah voilà, tant mieux. Ça
Oh,
va
il est
faire
toujours
vendre.
mineur, il a peut-être pas 18 ans. Hein. Non, je plaisante. Ah, blague de merde. Bon.
J'ai pas compris.
C'est pas grave. Enchaînons.
Je le comprendrai peut-être au montage. Et c'est bien, enfin moi je trouve ça pas mal. Maintenant, moi ce qui me gêne, c'est que le mec, on le connaît ni d'Ève ni d'Adam, quoi.
Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça le problème.
C'est-à-dire que c'est.
C'est-à-dire que, qu'importe la couleur, j'ai envie de te dire, pourvu que les histoires soient bonnes, et là, comment s'attacher à quelqu'un que tu ne connais absolument pas?
Mais oui, mais Bendis, au départ de Ultimate Spider-Man, arrivait à nous faire. Bon, pour les gens qui connaissaient pas, c'était pas grave, ils voyaient pas les références. Mais nous qui connaissions l'univers classique, on voyait les petits changements apportés au mythe, et on était content ou déçu de ces changements, mais en tout cas, on cherchait l'élément du départ, et ce qu'il allait en faire ensuite. Qu'est-ce que ça allait donner dans cette nouvelle continuité? Et ça, c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on veut faire avec un personnage qu'on connaît pas? Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter, quoi? Il peut pas prendre un élément comme ça, une référence, quoi. Enfin, comment faire des références avec un personnage inconnu? C'est difficile.
Oui, et puis les gens parlent d'une grosse prise de risque par Marvel. Bon, je suis désolé, mais voilà, c'est ce qui aurait été vraiment audacieux, c'est de, à l'époque de la création de l'univers Ultimate, te dire, eh ben voilà, Peter Parker dans cet univers est Black. Voilà.
Là, ouais. Là, ça aurait été audacieux, mais là, ça aurait été très intéressant.
Donc là, ça
Parce
aurait
qu'il y avait
changé.
moyen de changer des trucs, voilà.
Voilà. Ça change tout, quoi. Que Peter Parker soit Black, effectivement, ce serait un gros coup. Par contre, que là, que ce soit un autre personnage. Je trouve ça dommage. Et à
Et
mon
puis,
avis, ça n'a pas fonctionné des masses, hein, finalement.
honnêtement, qu'est-ce que ça va changer à part sa vie civile? Parce que finalement, sous le masque, on ne sait pas qu'il est black. Enfin, si, il y a le costume qui est plus sombre. Mais je veux dire, les gens ne savent pas que sous le masque, il est noir.
Oui.
Donc, il pourra pas forcément, enfin, on pourra pas lui opposer des racistes, ou alors si on lui pose des gens racistes, etc., c'est très forcé, scénaristiquement. Là, il
Oui.
n'y aura que des changements relatifs, s'il veut essayer de faire des choses relatives à la couleur du personnage. Ça pourrait être que de par sa vie civile. Et malgré tout, même si on aime la vie civile d'un super-héros, quand on achète un magazine de super-héros, c'est aussi pour le voir en costume.
Ouais.
Si on nous fait un arc en 6 parties, quand même, à l'effet Bendis, où on voit Spider-Man en costume 2 fois, enfin sur 2 cases, dans 6 épisodes, je suis pas sûr que ça marche très longtemps.
Oui, bah moi je suis pas sûr que ça marche très longtemps. Je pense que ça va se casser la gueule en termes de vente malgré tout. D'ailleurs, de toute façon, Bendis dernièrement, on a vu qu'il était pas toujours capable de marcher sur l'eau, hein, avec tous les titres
Oui, et puis bah comment
qu'il prenait, quoi. Donc
on... Puis comme on le disait ces derniers temps, c'est vrai que depuis l'arrivée d'Alonso au pouvoir entre guillemets chez Marvel, la news Bendis, il y en a vachement moins quand même. À l'époque de Quesada, on avait une news Bendis toutes les semaines. J'exagère peut-être un peu, mais pas loin. Là, des news Bendis, on en a une tous les 2 mois.
bon, j'ai une théorie sinon du dernier recours par rapport à ce personnage, c'est qu'au fait, ce soit Peter Parker, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il est à la fois une nouvelle identité civile et une nouvelle tête.
Une nouvelle identité physique, ouais.
Ouais. Donnée par Nick Fury, et peut-être même qu'il n'a pas conscience. Alors là, ce serait assez intéressant, mais je doute que ce soit ça.
Ce serait très spoonien quand même.
Qu'il n'ait pas conscience qu'il eût été Peter Parker.
Ah,
Et il
oui.
a de nouveaux souvenirs implantés, etc. Et donc c'est pour ça que il se sent obligé par la force des choses de reprendre le costume de Spider-Man parce qu'il a au fait été Spider-Man. Est-ce
Moi, je
que tu
pensais que
comprends?
t'allais. Oui, très bien. Oui, pourquoi pas. Moi, enfin, je pensais que t'allais dire qu'il n'a pas conscience qu'il est black et qu'il va le découvrir, tu vois. Et je pensais, tu sais, la scène de Spawn au départ où il se rend compte que
Ah
quand il
non,
se
non, non,
transforme
quand
en
même pas,
humain, il est
non,
blanc alors qu'il était black, tu vois.
non.
Une
Ah non,
espèce
non,
de
non, non.
redite de ce
Non,
côté-là.
non.
C'est pour ça que j'ai pensé à ça, que je t'ai dit que c'était très spawnien d'emblée de jeu, mais
Non, 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 et puis en
d'emblée
plus
de
ce
jeu,
serait
c'est une très belle
assez
intention.
compliqué, et je pense pas que ça, enfin, ça pourrait fonctionner actuellement de faire une histoire comme ça auprès du public, en tout cas lecteur de Ultimate Spider-Man, mais
À la rigueur, l'idée là serait peut-être pas mauvaise. Faut voir. Bah, il faudra acheter les premiers épisodes d'Ultimate Spider-Man, en tout cas le premier arc, et puis on verra ce que ça va donner, quoi.
parce que Nick Fury veut mettre la main sur Spider-Man depuis le début d'Ultimate Spider-Man, et là il en aurait enfin l'occasion de le faire sans que ça se sache. Puisque tout le monde le croit mort, donc il suffit qu'il lui file une nouvelle identité, qu'il essaye de le manipuler pour lui faire croire qu'il s'appelle, alors je sais plus comment s'appelle ce jeune Black justement,
Moi non plus. J'ai
Miles,
pas retenu
je ne sais plus, oui, enfin bon, et seulement ce serait foireux parce que petit à petit le mec se rendrait compte que bah il a des souvenirs qui lui appartiennent pas, enfin tu vois ce que je veux dire, ça
Moi,
pourrait pas.
j'aime bien cette idée.
Voilà.
Franchement, j'aime bien cette idée. Ce serait peut-être pas mal.
En gros, le pitch, ce serait le mec qui a été le plus grand héros de la Terre, mais qui s'en souvient plus.
Ouais,
Ça reviendra.
une sorte de mémoire dans la peau.
Ouais.
D'un autre acabit, quoi, mais Là, moi, je suis bien vendu par ton idée. Bah écoute, développe ton idée en comique et
Eh oui,
je serai le premier à en lire et à en faire une review.
oui, mais voilà.
C'est un passe, monsieur, c'est un passe.
C'est une merde absolue. C'est normal, c'est Bunny qui l'a écrit. Bon,
Non, je me
bref.
permettrai pas quand même.
Non, bah on s'est beaucoup étendu sur cette news, mais en même temps, c'était la news la plus importante et la plus passionnante, j'allais dire, quand même, de la semaine.
Et puis n'hésitez pas à réagir aussi à ce que l'on a dit, ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez la théorie de Bunny,
Oui, par exemple.
d'ailleurs.
Oui, est-ce que vous la trouvez à chier, vous pouvez, hein.
Et puis donnez-nous vos théories aussi, on a envie de voir un petit peu vos avis. Donc les commentaires sont ouverts, ou les mails, hein. On fait le tour en fin d'émission, comme d'habitude. On passe à la suite?
Oui, alors il y a eu un teaser sous forme de puzzle pour Alpha Flight numéro 4. Alors je ne sais pas si tu as suivi la
Non,
série actuellement.
J'ai lu le premier, je n'ai pas lu le deuxième, je suis un petit peu en retard. J'ai pas mal travaillé ces derniers temps, donc je suis un petit peu à la bourre, j'ai tout juste le temps de lire des comics, pour le podcast, donc voilà.
Donc bon, je vais te dire, moi aussi, je n'ai absolument pas lu ce volume. Enfin, pire que toi, j'ai même pas lu le premier. Mais souviens-toi, il y avait une rumeur comme quoi il y aurait un traître dans l'équipe.
Je m'en souviens très bien.
Est-ce que tu avais des idées?
Mais l'idée évidente, c'était Northstar qui n'avait pas trop envie de réintégrer l'équipe, ou, après la lecture du premier épisode, enfin du 0.1 et du 1, Marina qui pèterait les plombs vu qu'elle est à moitié démon, ou je sais pas très bien comprendre. En tout cas, elle pète les plombs et elle envoie chier les humains. Donc, ce
D'accord.
seraient les idées évidentes, quoi. Maintenant,
Ouais.
j'espère que ce serait pas ça.
Eh bien, vraisemblablement, alors sauf si je suis complètement à côté, vraisemblablement, ce teaser nous montre qui est le traître en question. C'est super graphique. Une fois qu'on a refait le puzzle, au fait, l'image est super graphique. C'est une planche, donc tirée d'Alpha Flight numéro 4. Et donc je pense qu'effectivement, nous avons avec ça l'identité du traître. Donc, attendez la sortie du numéro si ça vous intéresse et si vous suivez la série, plutôt que de vous faire spoiler avec ce puzzle. Néanmoins, moi ça m'intrigue. Alors je vais pas dire qui c'est du coup.
Oui, ben non, non,
Non,
non.
et puis même pour toi d'ailleurs, je pense que tu préféreras attendre.
À la rigueur, je préfère reconstituer le puzzle moi-même, tu vois, quitte à
Mais
choisir.
ouais. Donc, il est simple à trouver, hein, de
Eh
toute façon.
bien, découpez vos comics et refaites le puzzle.
Voilà, c'est ça.
Vous pouvez découper un Fear Itself, par
Ouais.
exemple.
Enfin
Ouais,
voilà,
je
bon.
l'ai dit, hein. Je ne retire pas.
Bon, bah, très bien.
Dernière petite news Marvel, cette fois-ci, news ciné, une rumeur actuellement court, comme quoi un des peut-être prochain film de Marvel pourrait être les Gardiens de la Galaxie. Alors, choix assez étrange, puisque c'est quand même une équipe relativement peu connue, hein, hormis le cercle de Marvelophiles convaincus, puisqu'en plus, les lecteurs casual ne connaissent pas forcément. C'est assez risqué, puisque c'est finalement pas vraiment dans la continuité Marvel, parce que ça se passe dans le futur, enfin, si c'est la première série, si c'est la nouvelle série, ça se passe de l'autre côté de la galaxie, et là encore, c'est pas non plus super super en lien avec l'actualité. Enfin, l'actualité, en tout cas, la continuité qui se passe sur Terre. Bon, faut voir. Si on a DNA au scénario, moi, je dis pourquoi pas, ça peut être un très bon film. Maintenant, si c'est un illustre inconnu ou une grosse merde, ou une grosse merde de poule de scénariste, parce que généralement, ça marche par poule, là, faut s'attendre à quelque chose d'assez ridicule.
D'accord.
Je sais pas ce que tu en penses.
Non mais oui bah je te suis. Enfin je suis d'accord avec toi, je veux dire, voilà, c'est à peu près la même chose.
Chose intéressante, par contre, il y aura une apparition des Guardians of the Galaxy dans la saison 2 de Avengers Earth Mightiest Heroes, donc
Ouais.
le dessin animé. Donc peut-être un moyen de présenter les personnages au grand public, entre guillemets, avant peut-être de voir si la réaction est bonne et de lancer peut-être le film. Je sais pas. À voir.
On va passer chez DC du coup. Et chez DC, bah, il y a juste une news, une pauvre petite news cette semaine, de Rick Johnson, donc un truc à confirmer, mais encore une fois, qui risque bien d'arriver, qui nous dit que la JSA, donc la Justice Society of America, pourrait revenir avec au scénario James Robinson,
D'accord.
voilà, et Nicolas Scott au dessin.
D'accord, bah c'est vrai que la JSA était le grand absent du DC New.
Ouais. Donc bon, bah écoute.
Et alors que c'est une franchise qui, certes, ne vend plus autant qu'avant, mais est quand même une franchise qui vend, puisqu'il y a deux titres.
Mais alors
C'est quand
pour
même
toi.
plus de titres que la JLA actuellement.
Ouais. Mais pour toi, bonne ou mauvaise nouvelle alors? Parce que James Robinson, on sait que
Et
dernièrement.
je sais pas, enfin, en même temps, il a fait un très gros crossover JLA, JSA ces derniers temps, où il mettait presque plus en avant la JSA que la JLA, en détruisant un petit peu le travail qu'avait accompli Bill Wingham. Bon, ça, c'est une autre histoire. Le mec, enfin, en plus, les personnages anciens, entre guillemets, on se rappelle le Starman notamment, lui colle plutôt bien à la peau, des trucs qui ont des racines dans le Golden Age. Moi, je dis pourquoi pas. Après, il faut voir si ce sera une série passéiste ou pas. Et puis, avec ce DC New, peut-être un moyen de nous raconter le passé de ce nouvel univers. Maintenant, il ne faut peut-être pas qu'on ait le syndrome Captain America, qui, même si là, c'est Captain America est très bien, avoir des histoires qui se passent que dans le passé, sans forcément traiter ce qui se passe dans le présent. Voilà. Faudra voir, faudra voir. Et puis, mais James Robinson est déjà sur une série, la maxi-série The Shade, et je me demande s'il n'a pas une autre série régulière dans le DC New. Je sais plus avec les 52 titres maintenant.
Je me rappelle plus, ouais, James Robinson. Attends, The Shade? The
Oui,
Shade.
il
Ah oui,
a
je
une
sais, The
maxi-série,
Shade, oui.
The
Oui, c'est vrai.
Shade, qui va sortir à partir du mois d'octobre, je
Mais
crois.
je crois qu'il faisait pas partie dans les 52 initiaux.
Mais à la rigueur, tant mieux, parce qu'il faudrait pas avoir le syndrome d'essoufflement dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, enfin, trop de séries à gérer en même temps, on sait très bien que la qualité baisse généralement sur l'ensemble des séries. Et sachant que la qualité de Robinson actuellement, c'est déjà plus vraiment ça.
Ouais. Alors par contre, ils ont annoncé 5 nouvelles séries pour Scott Lobdell. Non, je déconne.
Ça aurait pu être possible, hein.
Non, mais
Cet homme a 8 bras, en fait.
Non, mais y a plus de news, y a plus rien. Petite semaine hein, niveau news. Voilà. On
Et
est après
ben.
quelques jours après le, enfin quelques semaines maintenant après la Comic-Con de San
Ouais,
Diego.
et puis il y a encore quelques conventions à venir, donc je pense qu'ils réservent les grosses annonces.
Ouais, il y a la New York par exemple Comic-Con, je crois que ça s'appelle, hein. Voilà, qui devrait arriver en septembre, si je dis pas de bêtises.
Et puis on sait très bien que la New York Comic Con, comme la C2E2 à Chicago, sont aujourd'hui plus des vraies conventions comiques que Comic Con, puisque maintenant la Comic Con est squattée par les jeux vidéo, les séries télé, les films, etc. Donc voilà, c'est
D'ailleurs,
là qu'il faut faire des gros cartons au niveau des annonces.
j'ai dit une bêtise, d'ailleurs, c'est carrément en octobre en fait, la New York Comic Con.
C'est en octobre, ouais.
Ouais, du 13 au 16. Voilà,
D'accord.
ça en plus, je vous donne les dates.
On va réserver vos billets dès maintenant s'il en reste.
Oui, si vous avez le courage et surtout le porte-monnaie pour faire le trajet et puis passer du bon temps à New
Ça
York.
dépend. Si vous arrêtez d'ici, vous aurez peut-être l'argent pour aller à la Comic Con si
Ouais.
vous n'achetez pas les 52 titres.
Ouais, sinon c'est foutu quoi.
Ben, on va passer à la double review de la semaine. On va rester sur du DC justement avec la sortie de Flashpoint numéro 4. Toujours Geoff Johns au scénario, Andy Kubert au dessin, Sandra Hope à l'ancrage. Bon, eh bien, quoi dire dessus?
Bah, pas grand-chose.
Que c'est très décevant.
Ouais, c'est décevant ce numéro. Enfin, moi personnellement, c'est le premier qui me déçoit. Vraiment.
Ah, ben, disons que moi, ma déception devient rétrospective. Je vais expliquer pourquoi. Bon, on va faire rapidement le pitch. Obama a décidé, puisque c'est le président aussi dans l'univers de Flashpoint, a décidé finalement de.
Je me disais, mais de quoi il parle? Oui, c'est vrai. D'accord, oui.
Il a décidé de lancer l'offensive contre les Amazones et les Atlantes.
Ouais.
On va lâcher les bombes et c'est Hal Jordan qui va lâcher la fameuse bombe, chose qu'on a pu voir dans le tie-in Flashpoint Hal Jordan.
Ouais.
Et puis, on avait Flash, Batman et Cyborg en très mauvaise posture après la défection de Superman qui s'est enfui comme une lopette. Hein, faut le dire clairement.
Ouais.
Et là, on a le Deus Ex Machina, mais ultime, c'est-à-dire que je vais spoiler un petit peu, donc si vraiment vous voulez pas savoir, avancez juste de dizaines de secondes.
En même temps, c'est vraiment.
Bah,
Bon.
c'est le début, mais bon voilà, avancez
Non, mais
de
en plus,
10 secondes.
c'est pas le gros spoil de la mort non plus, hein.
Ouais, mais bon, s'il y en a qui veulent vraiment pas savoir, c'est pour ça que je préviens. Donc à partir de maintenant, avancez d'une dizaine de secondes. Ellie Wonder Woman, qui avait rencontré Cyborg et tous les autres dans le premier épisode, à qui ils avaient demandé de les rejoindre, eh bien, les a suivis depuis le début, en invisible, et elle vient les aider.
Comme sur Skype, sur MSN.
Non, franchement, c'est ridicule, quoi. On peut pas faire pire dans le genre, je me sors d'une situation.
Ben, au fait, c'est surtout que ils avaient pas besoin d'elle, à mon avis, pour s'en sortir. Honnêtement, ils étaient face à des gardes. Il y a quand même Cyborg, Batman, Flash. C'est pas une équipe de bras cassés, hein.
Je veux dire, si Flash accélère un coup, il enlève tous les flingues d'un coup, quoi. Enfin,
Ouais.
voilà. Non, mais enfin, moi, j'ai trouvé ça ridicule. Si encore on avait vu. J'ai pas re-regardé les épisodes, hein, mais si on avait vu, tu vois, genre derrière Cyborg, un petit peu de fumée, tu vois, un petit effet de flou, un truc comme ça. À la rigueur, si on regarde les anciens épisodes et qu'on le voit, bon, passe encore. Mais là, je suis certain qu'il n'y a rien.
Non, mais enfin,
Moi,
pour moi, c'était.
voilà, je trouve ça ridicule comme façon de s'en sortir le personnage invisible qui était là depuis le départ.
Ouais. Mais enfin, en tout cas, moi, son intervention, j'ai trouvé que c'était vraiment mineur dans cet épisode et ça m'a vraiment pas captivé.
Moi
Moi,
déjà,
ce qui m'a plus dérangé, tu vois,
ouais.
dans tout cet épisode, autant le dire tout de suite, c'est que on vient de passer un épisode entier sur Superman, il faut absolument sortir Superman, etc. Et là, on n'en entend plus du tout parler.
Ah non, mais c'est barré, hein.
Ah oui, non, mais d'accord, mais où est-ce qu'il est, enfin, moi, je pensais qu'on allait en entendre parler quand même, qu'il allait faire quelque chose, qu'on allait voir ce qu'il allait devenir. Alors, s'il faut lire la mini Project Superman pour le savoir, je trouve que c'est un peu dommage. Je
Écoute,
pense.
moi j'ai commencé à la lire, j'ai pas lu le dernier encore, bien sûr. Ben non, c'est ce qui se passe avant, quoi.
Ouais, en plus, j'imagine. Mais écoute, je pense qu'ils vont le ressortir pour le combat final dans le Flashpoint 5, de toute façon.
Ouais, si combat final il y a. Celui-là, je suis pas convaincu.
Oh, je pense que
Non.
si, là. Enfin, bon, on verra.
En fait, moi, ma déception a commencé à partir de là. Je me suis dit, un mec du talent de Geoff Jones qui nous sort une explication ridicule comme ça, pour moi, c'est encore plus mauvais, même si c'est pourtant un événement mineur hein, dans le crossover. Quoique, honnêtement, il y a tellement eu d'action depuis le début que voilà. C'est même plus ridicule encore que le coup de poing qui déchire les réalités.
Ouais.
Je te dis, le coup du personnage invisible, c'est pathétique. Enfin, je trouve ça
Non, mais
pathétique.
moi, ce qui me gêne un petit peu, surtout encore plus dans cet épisode, c'est voilà la perte de temps chez les personnages mineurs. Alors ils partent 1 heure à discuter avec
Ouais.
les
Les
la famille
Batson.
Shazam là, je sais plus comment ils s'appellent,
La
la
famille
Marvel.
Batson.
Oui, voilà. Et je trouve que c'est vraiment trop long pour rien, quoi.
Pour les recruter. Et puis ils se recrutent. Ça se fait en l'espace de 2 pages. Et voilà. Et on va sur le Royaume-Uni. On se met en plein milieu de la guerre entre Batman et. Entre Aquaman, pardon, et Wonder Woman.
Ouais.
Et puis là, le final qu'on attendait tous. Mais il se passe rien, quoi. C'est-à-dire que, bon, enfin, si le final, c'est voilà, Flash rencontre l'ennemi. Alors, est-ce que c'est bien celui auquel on pense? Est-ce que ce sera un autre? Je vais pas spoiler.
Bah,
Même si c'est très évident, je vais pas spoiler.
oui. Enfin, moi, je m'attendais à ça, hein.
C'est
En
peut-être
fait,
quelqu'un d'autre.
le problème de cet épisode, c'est que il est vraiment prévisible. Il n'y a pas de surprise, alors que dans les 3 premiers, il se passait quand même des choses que tu pouvais pas prévoir forcément.
Ouais, il se passait des choses que tu pouvais pas prévoir. Mais dans l'ensemble, depuis le début de Flashpoint, ça n'a fait que parler. Si tu veux, c'est le premier event que je vois où ça parle autant. C'est-à-dire que ça
Oui,
ne
mais
bouge pas.
ça par contre, ça me dérange pas, tu vois. Je
Ben,
trouve
moi,
ça
ça me gêne
justement.
parce que ça bouge plus dans les tie-in quand même.
Ouais, mais enfin, pour moi, un comics, bah, c'est ce que j'aime aussi dans Walking Dead. C'est pas forcément les épisodes avec les attaques de zombies que je vais préférer, quoi.
Non, mais là, pour un truc qui est censé être un gros truc, changement d'univers, machin et tout, on s'attend à ce que ça bouge. Et en fait, ça blablate, mais surtout ça blablate pour pas dire grand-chose. Parce que finalement, de l'univers de Flashpoint, si tu ne lis que la série principale, tu n'apprends quasiment rien.
Oh, bah,
Quasiment rien.
ouf, je dirais dans les 3 premiers quand même, t'en apprends quand même de jolies, de belles, hein,
Ouais,
sur.
enfin, pas tant que ça, t'apprends quoi? T'apprends que Hal Jordan n'est pas Green Lantern. Tu apprends qu'il y a un projet Superman et que Superman est enfermé. Tu
Ouais.
apprends l'identité de Batman.
Mais qu'est-ce que t'apprends de plus alors dans les tie-in justement?
Bah,
Parce que moi j'en ai très peu hein, finalement de tie-in.
t'apprends ce qui se passe dans le reste du monde, quoi. Mais
Bah tu le vois quand même là, ce qui se passe avec Wonder Woman et Aquaman.
honnêtement, le problème, c'est que quand on a lu d'autres choses, c'est difficile d'arriver à différencier ce qu'on a lu ou pas.
Parce que
Enfin,
moi j'ai pas lu
ce qu'on.
grand-chose hein, dans niveau tie-in au
Mais
final donc.
est-ce que on avait lu quand même le Wonder Woman and the Fury, ce qu'on avait traité ensemble? Je
Ah bon?
crois, ou je l'avais traité
Non,
seul,
non, tu l'avais
je ne sais
traité
plus.
seul, je crois. Parce que je me rappelle pas l'avoir lu, honnêtement.
Non, excuse-moi, je ne sais plus quel
Non, non,
double
mais c'est pas
review
grave.
on fait il y a de ça quelques mois. Mais est-ce qu'on apprend réellement que c'est un mariage avorté entre les deux nations qui ont déclenché cette guerre dans Flashpoint?
Je sais plus, mais en tout cas, je le sais. Donc.
Ben oui, mais est-ce que tu le sais parce qu'on te l'a dit ou parce que tu as lu des trucs ailleurs? C'est toujours ça qui est difficile hein,
Ouais.
quand on a lu d'autres choses, se rappeler de ce qu'on a lu précisément dans quel
Ouais.
numéro,
Ouais.
surtout quand ça date de 3 mois et qu'on lit autant de comics que nous par semaine, c'est
Non
très
mais
difficile.
Flashpoint pour moi c'est vraiment bah, un retour vers le futur. C'est Geoff Jones qui nous fait un espèce de retour vers le futur avec l'univers DC. Et honnêtement, de ce point de vue, voilà, je pense qu'en lisant les 5 numéros de Flashpoint, tu passes quand même un bon moment. Bon alors on n'a pas encore la fin, hein, à moins que la fin soit vraiment super foireuse. Mais
Ouais, vas-y, dis-moi.
pour le moment, je pense qu'on passe un bon moment. Il y a juste effectivement cet épisode-là, le 4, c'est l'épisode le plus plat de tous.
En fait, rétrospectivement, tu regardes si la décompression, beaucoup de décompression avec beaucoup de scènes de dialogue qui ne sont pas forcément utiles. Le final, en fait, le meilleur des finales depuis le début, c'est le final du 2. Celui
Ah,
où
le premier était vraiment pas mal.
le premier était pas mal, mais je trouve que le final du 2 était vraiment surprenant, avec un Flash qui se fait carboniser.
Bah moi, tu vois, j'ai plus retenu quand même le premier, tu vois, rétrospectivement. J'étais vraiment super enjoué quoi quand j'ai lu ça.
Ouais, ben voilà, moi je sais pas, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Geoff Jones fait du souffle Geoff Jones, et j'ai deux possibilités qui me viennent à l'esprit. Soit le mec est vraiment trop occupé à préparer le DC New, Et dans ce cas-là, voilà, il fait le minimum syndical parce qu'il est trop occupé ailleurs, et donc il soigne pas forcément cette histoire-là. Soit c'était vraiment un truc de commande, et donc là encore, il a fait le minimum syndical parce qu'il n'en avait rien à foutre et qu'il n'avait pas envie d'écrire ça. Mais honnêtement, là, il commence à me faire peur, et ça me fait vraiment très peur pour la suite du DCverse. Je suis très inquiet, parce que en un épisode, régler tout ça me paraît impossible.
Ouais, mais faut voir comment tout ça va se goupiller. Vraiment, le 31 août va être particulièrement intéressant, puisqu'on aura non seulement les réponses de la fin, mais du début enfin, du renouveau de l'univers avec le DC, non, le Justice League numéro 1.
Et d'ailleurs, on vous prépare une émission spéciale à cet effet.
Oui, enfin,
Voilà. Petit. Non,
on la
enfin,
fera à ce
oui, à
moment-là,
ce moment-là,
quoi.
mais voilà. Petit teasing.
Mais c'est prévu,
Attention.
on va dire.
Enfin, pour moi, voilà. En gros, il s'est quasiment rien passé encore une fois dans cet épisode. Et je me dis que c'était pas passé grand-chose dans le premier. Tu sais, on se dit, bon, ça va démarrer au 2. Au 2, ça bouge un tout petit peu. On se dit, ah, ça y est, ça commence à bouger. Au 3, ça rebouge pas trop. On arrive au 4. Et voilà. Et il reste qu'un épisode. Enfin, ça fait peur, quoi. J'ai peur d'un backlash final terrible.
Moi, je suis plutôt satisfait de l'ensemble pour le moment, à part de ce quatrième épisode que j'ai trouvé
Comme je dis, moi
assez ennuyeux.
j'étais satisfait jusqu'à la lecture de ce 4, et c'est rétrospectivement que je me dis que finalement il se passe rien quoi. À chaque fois on attend, et ben on attend pour rien, et c'est ça qui me gêne quoi. C'est pour ça que en fait c'est vraiment la déception qui fait que ça amplifie mon sentiment vis-à-vis de cet épisode-là quoi.
Mais moi j'ai ce à quoi je m'attendais, donc je suis globalement satisfait, en tout cas pour le moment. On verra pour la fin.
Donc ta note?
Bah écoute, pour moi ce sera exceptionnellement, oui, comme tu dis, un check-it pour cet épisode-là précisément. Mais voilà, parce que je peux pas vraiment dire un bail dans la mesure où on pourrait même rater l'épisode, on rate pas grand-chose.
Et c'est pour ça que moi, ce sera un check-it à tendance passe quand même. C'est grave, hein. Enfin, en tout cas pour moi, c'est grave de parler comme ça d'un comic de Jeff Jones que j'adore, quoi.
Oui,
Mais
ouais.
quand on a un auteur qu'on aime particulièrement qui nous déçoit à ce point, ça fait mal, quoi. Enfin, ça fait mal. Faut pas non plus le voir comme si c'était la fin du monde, mais voilà, ça fait chier, quoi.
Oh bah quelques années de psychologue, je pense que ça ira.
Ouais, ou alors on fait un attentat.
Oui.
Non,
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 je pense.
je plaisante, je plaisante, ne venez pas m'arrêter, c'est pour rire.
Si, arrêtez-le vite, il est dangereux. Surtout quand il a lu un comics comme ça. Bon, alors donc,
Allez,
on va passer à autre chose
au
alors du coup.
review solo. Ben, on va aller chez Marvel maintenant avec le Iron Man 2.0 numéro 7.1. Je
Oh là
sais,
là, oh là là.
j'en entends rigoler déjà, mais moi-même
Oh.
je rigole déjà quand je le dis. Nick Spencer au scénario, Kano au dessin
Bien
et à
sûr,
l'ancrage.
Kaino, le personnage de Mortal Kombat.
Ouais, il y a du sang, il y a des tripes, il y a de la chic et du molar. Tout ça, quoi. Non, c'est pas vrai. Alors, Iron Man 2.0, on avait lu le premier ensemble, je crois. On avait dû le traiter en double review.
Je pense qu'effectivement, cette fois-ci, oui, on avait lu effectivement le premier, pas
Où
ensemble. Enfin, je t'avais tourné les pages simplement, j'étais allongé, je me rappelle, dans une position que je ne décrirai pas.
Suggestive, dirons-nous. Donne un peu de rêve aux gens qui écoutent,
Mais ouais,
Seigneur.
mais voilà, faut leur donner un petit peu de rêve, avec ton peignoir. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs. Ça te
Ah,
manque?
peignoir qui était à moitié ouvert, hein, je précise.
Oui, bien sûr. Jusqu'à moitié
D'où
même.
la pause suggestive. Bon, on va accélérer. donc, j'avais pas forcément continué la suite par manque de temps, principalement. Et puis parce que j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais pas été accroché plus que cela. Donc là, je me suis dit, c'est un numéro point 1. Pourquoi pas, c'est l'occasion peut-être de revenir au titre, voir ce que ça donne, est-ce que ça a changé. Alors, on est toujours sur l'histoire de ce Palmer Hadley, donc au numéro 7.1 quand même. Mais il faut dire qu'entre-temps,
Oui, d'accord.
voilà. Il faut dire qu'entre-temps, Nick Spencer a dû gérer Fear Itself. Oui, c'est ça, Fear Itself. Je commence à avoir un doute sur le nom du cross.
Flashpoint.
Oui, il a dû faire des tie-ins à Fear Itself et donc mettre son histoire un petit peu entre parenthèses pour les besoins de l'event. Là, il peut enfin se remettre à cet event. Et alors, je n'ai lu aucun autre épisode depuis, mais ça m'a donné envie de relire la suite. Donc déjà, c'est pas mal. L'histoire a apparemment un petit peu avancé. On a un petit récap dans l'épisode et puis sur la page de récap aussi. Alors, ça commence en France, à l'Élysée, où on va recevoir un dictateur. Un petit peu
Comme
en
souvent à
lien.
l'Élysée, hein, en fait. C'est un petit peu une tradition chez nous de recevoir des dictateurs.
Mais disons que c'est en lien avec les révoltes dans le monde arabe. Alors c'est pas
D'accord.
précisé de quel pays exactement, mais voilà, on sait que c'est un dictateur dont la population se rebelle et qui menace d'exécuter tout le monde. Donc un petit peu
On attend notre dictateur, hein.
voilà, ce qui nous fait penser un petit peu à la Libye ou à la Syrie, actuellement en tout cas. Et donc il faut absolument que
Quel délateur, ce Steve.
la réception soit parfaite parce que la moindre couille, justement,
Pourrait
pourrait
entraîner
la mort de civils, quoi.
Oui,
Voilà.
voilà.
Bref, donc ça déjà, ça prend pas mal de pages sur le début, on se demande où ça va. Enfin, en tout cas, moi, je me suis vraiment demandé où ça va. Puis après, on va laisser un petit peu cette histoire de côté. On va revenir sur James Rhodes, qui va faire le point sur l'affaire Palmer Hadley, qui me fait franchement penser à qui a tué Laura Palmer. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ça, à chaque fois, j'ai un Twin Peaks, quoi.
Ou qui a tué Pamela Rose.
Dans un autre registre. Ouais. Bon, il fait le point. Il entend parler de cette attaque d'un drone sur Paris qui utilise la technologie de Palmer Hadley. Et donc, il y va et on découvre sa nouvelle armure. Alors, je ne sais pas s'il a besoin de nouvelle armure parce que la sienne a été détruite pendant Fear Itself ou autre chose. En tout cas, il a une nouvelle armure là. Et les pouvoirs sont intéressants puisqu'il utilise pas mal la technologie de Ghost dans sa nouvelle armure. Donc, il peut devenir intangible.
Ah d'accord.
Et
Ce
ça
qui est
peut donner
logique
de...
d'ailleurs, puisque Ghost
Ouais.
est un ennemi quand même assez classique d'Iron Man en plus.
Ouais, voilà. Puis, qui. Alors, je ne suis plus les Thunderbolts actuellement aux États-Unis, mais est-il toujours dans l'équipe? Donc, est-il toujours du bon côté? Peut-être pour ça qu'il a partagé sa technologie avec Stark. À
Je crois qu'il y est
voir.
toujours. Je crois que c'est l'un des seuls d'ailleurs qui est resté des récentes équipes.
Donc, du coup, il arrive à bien sûr arrêter cette attaque de drone, mais le dictateur n'est pas content et s'en va furieux. Donc, ça risque de provoquer un massacre dans son pays. Donc, que vient faire ce drone de Palmer Hadley dans cette histoire-là? Quels sont les liens entre le gouvernement et Palmer Hadley, en tout cas ceux qui utilisent sa technologie? Moi, je sais pas, j'ai des choses qui sont sympas. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. À voir la suite. Donc, pour moi, ce sera un bon check-it, quoi.
D'accord, donc loin des anciens volumes de War Machine qui n'étaient pas terribles.
Ouais, bah ouais, là c'est plutôt pas mal, il y a de l'humour, il y a bon, pas mal de scènes de dialogue parce que ça permet de faire le point aussi. Ça remplit bien sa fonction de point 1.
Ouais.
Moi je dis que demander de mieux quoi. Puis ça fait plaisir de revoir Kano aussi, ça fait un petit moment que je l'avais pas vu bah, depuis Iron Fist.
D'accord.
Donc ça m'a fait plaisir, voilà, un bon petit check-it. Une des meilleures choses que j'ai pu lire cette semaine, et étonnamment c'est une série Marvel, et en plus War Machine, c'est pas forcément le genre de truc qu'on attend qu'il soit classé dans les bons trucs, mais cette semaine c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu lire.
Eh bien, bravo boîte de conserve. Attends,
Ouais.
voilà. Oui, non, donc bah, je vais rester chez Marvel avec le Punisher numéro 1. Et oui, nouveau volume du Punisher par Greg Rucka, tout de même.
Qui n'est
Et
pas le frère de Jean
non, Greg Rucka, bien
Roucas.
sûr. Qui n'est pas le frère et qui est un grand auteur, quand
Oui,
même.
lui.
Qui a écrit pas mal de choses comme Superman, comme du Daredevil, avec Brubaker. Baker.
Oui, qui a écrit Gotham Central aussi.
Gotham Central, voilà, exactement.
Pas mal.
Et donc, bah, c'est un petit peu un rêve de fan que de le voir arriver sur une série comme le Punisher. Alors, est-ce qu'il est à la hauteur des attentes? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Marco Cecchetto, donc, est au dessin. Alors déjà,
Un style sombre quand même.
un
Un petit
style
peu.
sombre, mais justement, je vais commencer en parlant du dessin, parce que les premières pages sont sans dialogue, ou quasiment sans dialogue.
Putain, c'est la mode cette semaine ou
Ouais,
quoi? Oh
exactement, exactement.
putain.
J'ai remarqué ça, c'est assez terrible. Il y avait plein de comics qui commençaient sans dialogue cette semaine. Bah
Oh.
écoute, se sont passés le mot.
Putain, mais à 2 ou 3,99 le comic où t'as 7 ou 8 pages sans dialogue, c'est gentil, mais on est là aussi pour lire. Alors les dessins, c'est bien gentil, mais.
Ouais, mais là, disons que la mise en scène de Marco Cecchetto pour la première scène est vraiment géniale. On a l'impression d'assister bah, à un film, quoi. C'est très cinématographique, ça. C'est choc, c'est une scène d'intro choc, on va dire, et ça met directement dans le bain et dans l'ambiance, et on a vraiment envie de lire la suite quand on, bah, quand on regarde, quand on suit cette première scène. Donc,
J'imagine que ça met donc dans le bain de sang.
oui, dans le bain de sang, puisque c'est des hommes armés qui interviennent lors d'un mariage et qui font feu, j'allais dire de tout bois, enfin qui font feu sur la foule.
Un petit peu une scène à la Daredevil, comme on avait eu avec le Rematch de Mark Waid.
En bien plus glauque, en bien plus
Oui,
glauque.
non mais enfin je veux dire c'est le même principe. C'est marrant que les deux séries, les deux relaunchs commencent
C'est
sur
vrai.
un mariage.
Un mariage foireux, on va dire.
Ouais, voilà.
Un mariage qui part sérieusement en sucette. Enfin non, qui part en tuerie, on va dire ça comme ça. Parce qu'en sucette, on pourrait penser à un mariage qui part d'une autre
Non,
façon.
non, 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 ne dis pas, ne, ah, c'est bon, j'ai eu des images, ça y est.
Oui, d'accord, voilà. Donc
Oh.
et du coup, eh bien, un flic, enfin deux flics d'ailleurs, enquêtent là-dessus. Alors un vieux flic black à la manière de ce clairement Morgan Freeman, qui a été pris comme modèle. Et un jeune qui fait penser justement un petit peu. Il y a un petit côté Brad Pitt, tu vois, de Seven. On a l'impression que c'est le duo de Seven qui doivent enquêter là-dessus. Donc franchement, au début, tu vois, je me dis, ah, pas mal, pas mal, mais et le Punisher là-dedans? Et bah ben, le Punisher, finalement, on le voit pas beaucoup. Et le Punisher, il agit un petit peu dans cet épisode comme Batman, tu vois, il est un petit peu plus légende urbaine. C'est-à-dire que à la fin, quand il exécute des méchants, on aperçoit juste le signe avec la tête de mort qui porte sur le torse, mais on le voit jamais entièrement le Punisher dans cet épisode.
Un peu à la Gotham Central, justement, où on ne voyait pas Batman, pour
Voilà.
peut-être une ombre par-ci par-là, mais.
Voilà. Donc là, il agit vraiment comme un fantôme, comme une ombre. Bon, c'est pas plus mal, mais d'un autre côté, on se dit, bah oui, mais on aimerait bien le suivre un peu plus, quoi. C'est quand même le héros, c'est censé être le héros de cet épisode. Et là, le premier épisode donne plus de place, finalement, à ces deux flics qu'au Punisher. Donc c'est un petit peu problématique. Pour le pitch général, c'est assez simple, au fait. Au fait, il y a une deuxième petite histoire autour du flic plus jeune qui est interrogé par un supérieur parce que son partenaire a été tué en mission. Et au fait, le mec qui
Le
l'interroge...
black a été tué
Non,
ou son
non, non,
ancien
pas le
partenaire?
black, un autre
Ah
partenaire
d'accord,
qu'il avait
ok.
avant. Et a été tué en mission, et au fait, son supérieur l'interroge et lui dit, bah écoutez, vous êtes vraiment un héros parce que vous en êtes super bien sorti. Et au fait, il le dit pas au mec qui l'interroge, mais on s'aperçoit, nous, en voyant les images du flashback, que c'est le Punisher qui est intervenu et qui a aidé le mec, mais de telle sorte que on pense qu'au fait que c'est pas le Punisher qui a dégommé tout le monde, mais le jeune flic.
D'accord.
C'est-à-dire que dans cette intrigue, comment dire, le Punisher
A rendu service à la police, en fait.
a rendu service à la police, mais surtout a
Il
trouvé
sait.
un flic pour, au fait, endosser ses actions. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Et puis il a quelqu'un chez les flics qui lui doit quelque chose, quoi. Ce
Exactement,
mec-là a
voilà.
une dette envers lui, une dette de mort,
Exactement,
enfin.
exactement. Donc, si tu veux, cette intrigue est intéressante, mais en même temps, je l'ai trouvée un petit peu déjà vue sur le Punisher. Donc, voilà, pour moi, c'est un numéro en demi-teinte. Ça m'a pas déplu, mais ça peine à démarrer. Et bon, bah, j'ai quand même. Je suis curieux de voir la suite, mais je m'attendais à un petit truc en plus. Tu vois, un petit retournement final, un petit, je sais pas, une surprise à la fin. Qui porte la patte de Greg Rucka, quoi. Voilà. Donc bon, c'est sympa, surtout dans la mise en scène, c'est vachement. Enfin, les Checchetto là a transformé son style et c'est très très bon. Mais je sais pas, il manque un tout petit truc qui fasse que ce soit un super bail, quoi. Bon, alors c'est un bail. Bon, bref, à tendance check-it, tu vois, un bail à tendance check-it, parce que ça m'a pas totalement convaincu pour un truc par Greg Rucka. Moi, je m'attendais à Enfin, voilà, le Punisher par Greg Rucka, je m'attendais à quelque chose de plus grand, je sais pas, de plus particulier, plus original.
D'accord. Et comme quoi, trois notes ne suffisent pas, il faut, on est obligé, hein, des fois de mélanger, c'est difficile, quoi.
Ouais, parce que en antenne, je t'ai dit, je mettrais juste un check-it, et puis finalement, bon, bah voilà, c'est compliqué, c'est le premier en même temps, donc faut aussi laisser sa chance au produit, j'allais dire. Donc bon.
On va rester dans le même genre d'avis pour ma review suivante. C'est Rachel Rising numéro 1 de Terry Moore, qui fait tout, hein, comme d'habitude. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal. Comme ça, il a le contrôle total sur sa propre création. Donc, nouvelle série de Terry Moore, après Echo, qui s'est terminée il y a quelques semaines. Et donc, le pitch. Déjà, c'est une série illimitée dans le temps. C'est un truc à savoir quand même. Il n'y a pas, pour le moment, il n'a pas prévu de numéro d'arrêt. On verra combien de temps ça durera, hein, parce que moi, vu le pitch, bah, ça m'étonne qu'il puisse durer 150 épisodes.
Ah bah, faut voir.
Faudra voir. Donc le pitch, une femme nommée Rachel se retrouve enterrée et elle, en fait, elle était morte et elle se relève.
Ah
Donc
bah
Rachel Rising.
on sait pas vraiment si elle était vraiment morte au fait.
Si, elle a des flashbacks où elle se fait étrangler. Je veux bien, mais.
Oui, c'est vrai. Bon, d'accord.
Là, je pense qu'elle était morte. Enfin, je veux dire, t'étrangles pas quelqu'un dans la nature et tu l'enterres si elle n'est pas morte, quoi. De plus, les yeux. Elle a des yeux particuliers qui montrent bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Puis voilà. Voilà, c'est tout. Mais
Non, c'est pas
franchement, non, franchement, voilà, honnêtement, il se passe rien.
Bah, je
C'est-à-dire
l'ai
que
vu
déjà,
aussi, hein, c'est pour ça que je.
on a les 10 premières pages sans dialogue où on voit Rachel se relever. Sortir. Alors, la mise en scène est bien, très très bien, il y a aucun défaut là-dessus, en plus c'est du Terry Moore, donc graphiquement, si on aime, franchement, on va aimer, enfin voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas ça si on aime le style de Terry Moore habituel. Maintenant, je trouve que pour un premier épisode, bon, elle rentre chez elle, elle se rend compte qu'il y a quelques jours qui sont passés, elle a disparu pendant 3 jours, et voilà, elle a un flashback avec une de ses amies qu'on apprend à découvrir. Ouais, ok, mais franchement, le cliffhanger final te donne même, enfin le cliffhanger, si on peut parler de cliffhanger, en tout cas la dernière case avec la dernière bulle, moi m'a pas super séduit, il m'a pas donné envie d'aller voir le 2 si je ne savais pas que c'était du Terry Moore. Quand je lis ça, je me dis, ouais, bon, passable, je dégage. Y a pas en fait ce que j'attends de Terry Moore dedans. C'est-à-dire que c'est pas un premier épisode qui m'a super accroché. Aucun attachement au personnage, premièrement. La personne est faite. Voilà. Mais bon, en même temps, elle est morte. Voilà. Est-ce que c'est pas volontaire de ne pas s'attacher à une morte? Finalement, si elle est morte, a-t-elle encore des sentiments? Il y a toutes ces questions-là qui sont sous-jacentes. Mais moi, j'ai trouvé que c'était fade. Et puis, à 3,99, avoir quand même 10 pages où on regarde, ok, c'est joli, mais on tourne parce qu'il n'y a rien à lire. Alors, on peut s'arrêter sur la mise en page, ok, et la beauté graphique, mais on s'arrête pas non plus 4 plombes sur chaque page, quoi. Donc, déçu. Vraiment déçu parce que j'ai été habitué à mieux de la part du monsieur.
D'accord. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire quand même, au début, il maîtrise vachement bien l'arc séquentiel, c'est-à-dire que moi enfin, je l'ai lu et je suis vraiment rentré dedans. Alors c'est vrai que ça se lit super vite du coup.
À 3,99, ça fait mal au cul.
Mais en même temps, tu te poses quand même une quantité de questions à partir d'un truc quasiment sans dialogue. Donc je trouve ça quand même assez fort.
Ouais, enfin, les questions, moi, je me les posais déjà à la lecture de la sollicitation. Je m'en pose pas fort. Si, il y a une question de plus. Qui est cette personne qui regarde au-dessus? Est-ce vraiment elle ou pas?
Ouais, et puis
Voilà.
pourquoi à la fin il y a cette réaction-là, parce que ça je m'y attendais pas forcément.
Oui, mais je trouve que, comme cliffhanger, c'est peu, quoi. Surtout sur une si petite case.
Et puis attends, oui, aussi ce qu'il faut se dire, c'est que d'habitude, alors je sais pas, mais Echo, il me semble que d'habitude on se lit 6 épisodes de suite, comme on les traite en français.
Oui, mais j'avais Echo, j'avais accroché dès le premier.
Ouais,
J'avais
mais ce que je veux dire,
même
c'est
sans
que.
lire la suite, déjà dès la fin du premier épisode, j'étais accroché.
D'accord, mais
Donc même si j'avais pas lu la suite sur le moment,
Ouais.
j'étais accroché d'emblée.
D'accord.
Là, je le suis pas forcément, quoi. C'est-à-dire que j'avais de plus hautes attentes du premier. C'est ma faute. Et en même temps, c'est de sa faute à lui, vu qu'il a pas fait d'aussi bon comics avant. Voilà.
Non,
Le
c'est
mec
toujours
qui se
la faute des autres.
le mec qui rejette la faute, c'est sa faute à lui. Il était trop bon. Voilà. Non, je suis peut-être un peu dur, mais c'est vrai que après il y a aussi ma semaine qui a été difficile, pas forcément peut-être une tête qui, enfin, j'ai peut-être pas la tête forcément à ça non plus, mais voilà, avec Flashpoint qui m'a déçu et ça par-dessus, ça aide pas, quoi. Ça aide pas. Disons que ouais, c'est un ensemble, c'est toujours subjectif de toute
Ouais.
façon mon avis. Peut-être que d'ici 2 semaines, je dirais en fait finalement c'était pas si mal que ça. En tout cas là c'est ma réaction quasiment à chaud, je l'ai lu il y a 2 jours. Ma réaction est la même. J'essaie de vous donner la réaction le plus à chaud possible. Là, de toute façon, mon avis, pour le moment, n'a pas vraiment changé. Ça reste, malgré tout, intéressant. C'est du Terry Moore, donc on a des attentes et on sait très bien que ça peut normalement que s'améliorer.
Oui.
Disons pour ça que, vu mon ressenti, je mettrai qu'un check-it.
D'accord.
Je mettrai qu'un check-it. Je ne vais pas dire que c'est le bail absolu parce que je mentirais. Ou alors, ce serait spéculer sur l'avenir. Et peut-être que la suite de la série sera comme ça et ce sera peut-être une déception.
Enfin, par exemple, tu vois, le tout premier Walking Dead de Kirkman, donc à mon avis, ça se lisait très très vite, le premier single. Il se réveille, il est à l'hôpital, enfin voilà, il voit 2-3 zombies, il s'enfuit. Il se passait pas grand-chose non plus, je pense que c'était assez rapide à lire.
Ouais, mais il y avait cette invitation au road trip à la fin du premier, où tu te dis, bon,
Ouais.
voilà, il a rencontré des gens, etc. Ok, il se passe pas non plus énormément de choses. Le mec s'en va, et tu dis, il y a la promesse de quelque chose. Tu vois, vraiment d'instantané, quoi. Dès le deuxième épisode, tu sens qu'il
Là,
va se passer
c'est
quelque
très
chose.
drôle, c'est qu'en fait, ça s'arrête là, Rachel Rising. C'est la grosse blague, tu sais.
Ce serait couillu, mais ce serait drôle.
Non, mais franchement, surtout, enfin, quand vous lirez la fin, la dernière réplique, pensez à ça, et si c'était vraiment juste un one shot, ça fait rire, quoi.
Oui, ce serait franchement couillu. De faire ça, ce serait très couillu. Mais là, peut-être que ma note changerait en absolute bail, tu vois.
Ouais, ce serait tellement démentiel de voir un truc pareil.
Mais
Bon, enfin.
voilà, tu vois, comme tu disais, cette fin aussi, le fait que cette fin soit sur une petite case en bas, à droite, logique, hein, de la page, mais sur une petite case, dans une petite bulle, etc., t'as pas ce sentiment de grosse révélation, tu vois, de gros truc, où tu
Moi,
te
en
dis,
tournant la
ah,
page, je me suis dit non, attends, c'est pas fini, c'est pas possible.
ben oui, moi aussi, je me suis dit, ça s'arrête là. Et je me suis dit un peu, ah ouais, tout ça pour ça. C'est pour ça, d'où ce sentiment de déception, quoi. Bon, allez, je vais pas épiloguer là-dessus, parce qu'on avait dit qu'on ferait un épisode plus court, et ça va pas être plus court, finalement.
Alors,
Je te repasse la parole, pardon.
ouais, Severed, numéro 1. Alors, décidément, on fait un épisode spécial numéro 1, je sais pas si t'as remarqué aussi.
Non,
Sauf pour
là.
Flashpoint.
Et puis le Iron Man 7.1.
Oui, bon, enfin, on s'en fout. Bah si, il y a du 1 dedans. Enfin, bon. Donc c'est
Il y
pareil.
aura d'autres choses que des numéros 1 dans les reviews express.
Ouais. Scott Snyder, justement, au scénario avec Scott Tuft. Voilà.
si tu regardes, quand même, on a tapé dans le gros, quoi. On a du Jeff Jones, on a du Terry Moore, on a du Nick Spencer,
ouais,
du Greg Rucka.
Est-ce que ça, hein, ils mangent pas tous comme toi,
du Scott Snyder. Enfin, on a quand même du très gros nom, quoi, dans les auteurs, en tout cas, cette semaine.
Oui, c'est vrai. Bon, donc, Scott Steiner...
joli, joli. Est-ce que je la laisserai? Je ne sais pas.
Les fans de catch apprécient. Scott Snyder... du coup, je vois trop la tête de Steiner maintenant. Et Scott Tuft en team, justement, en tag team sur ce nouveau titre, avec Attila Futaki au dessin.
Alors ça, si c'est pas un nom de barbare, quand même.
Futaki? Bon.
Non, Attila.
Attila, oui. Ah bah oui. Oui, en même temps. C'était tellement en plus évident.
Je sais pas pourquoi tu m'as sorti Futaki, j'ai pas compris.
Ah dis donc, ça va être bien, hein, cette review.
La review dure.
Oui, donc alors, ça démarre sur personnage âgé, hein, voilà, il est grand-père, visiblement.
Ça démarre sur 8 pages sans dialogue, là aussi, non?
Non. Ah, non, c'est un grand-père qui regarde la télé tranquillement, et au fait, son petit-fils lui apporte un courrier qu'il vient de recevoir. Et à la lecture de ce courrier, le grand-père est choqué, traumatisé, et flashback, il nous raconte sa vie quand il était tout gamin, en 1916, aux États-Unis. Et au fait, il avait pour rêve de parcourir les routes, partir de chez lui, un petit peu vivre en bohème avec son instrument de musique. Enfin voilà, quoi, il avait, comme tout gamin, qui rêve d'aventure, quoi, au fait. Mm-hmm. Et donc, bah, un beau jour, il décide de quitter la maison familiale, quitter son petit confort et de partir sur les routes, comme ça, à l'aventure. Ensuite, on change d'environnement et on arrive dans un orphelinat où un mec... Qui travaille dans l'électricité, les ampoules. Bah au fait,
j'ai pensé à l'expression tête d'ampoule, ça m'a fait rire. Excuse-moi.
Ouais, enfin c'est plus ou moins approprié en plus. Il ramène un gamin chez lui, quoi, pour lui servir pour que ce gamin bosse pour lui, quoi.
J'ai eu très peur de ce que tu allais annoncer, comme tu hésitais, je me suis dit, oh là là, le choix de mots risque d'être délicat, j'ai très peur de ce qui va se passer.
Non, mais au fait, c'est pas si loin non plus de la vérité.
Oh merde.
Et on se rend compte qu'il y a des choses pas nettes, pas normales. Je vais pas te révéler ce qui lui arrive. Et ensuite, on retrouve donc ce fameux gamin qui parcourt les États-Unis. Alors lui aussi a quelques petites péripéties durant son voyage.
Donc c'est pas des péripatéticiennes.
Voilà, très oui, bien, ça c'est fait.
Ça c'est fait, hein, c'était facile.
C'est l'heure des pilules. Et en fait, je sais pas où arrêter mon résumé, parce que j'ai envie de te dire... Peu à peu, en fait, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que ça devient de plus en plus sombre et de plus en plus glauque. Et tu t'attends à ce qu'il y arrive quelque chose d'atroce. Et bah effectivement, à la fin, ça arrive, quoi. Et on a hâte de lire la suite. Parce que, voilà, quoi, il y a vraiment tout pour avoir une ambiance de... ça s'adapterait bien aussi en roman, hein, ce truc-là. Hein. Scott Snyder, de toute façon, il a bossé avec Stephen King sur American Vampire, N'oublions pas, qui se situe aussi d'ailleurs aux États-Unis au début du siècle dernier, donc ça fait un peu penser à ça. Mais voilà, là, c'est plus effrayant encore. Et les dessins, justement, de Futaki sont très bien. Je ne connaissais pas du tout ce dessinateur. Mais là, super bien adapté, une ambiance rétro qui colle parfaitement bien à l'atmosphère, j'allais dire... à la fois mélancolique et malsaine, quoi, qui se dégage de tout ça.
Comme c'est beau.
Voilà.
Mais c'est marrant parce qu'on est très voyeuriste, hein, tu vois, on s'attend à ce que ça dérape et que ça vire dans le glauque, et en même temps on se dit, ah non, c'est crade quand même, mais on n'attend que ça finalement.
La couverture et le titre en question, c'est un titre horrifique, hein, de toute façon, faut s'attendre à un récit un petit peu à la Stephen King, voilà, on est vraiment dans ce ton-là. Hein. Et puis, les histoires comme ça, les plus réussies, je trouve, c'est les histoires justement qui touchent à l'enfance.
Oui.
Je trouve que c'est plus effrayant encore, parce que il y a une espèce d'innocence qui
disparaît au fur et à mesure.
Ouais, et puis
totalement perdu à jamais en plus.
Oui, et puis lorsqu'ils sont confrontés à des individus monstrueux, et bien c'est encore plus effrayant, quoi.
Est-ce que c'est fantastique ou est-ce que c'est purement réaliste?
En fait,
est-ce qu'il y a des éléments de fantastique dedans, disons?
j'ai envie de te dire, c'est quasiment réaliste pour le moment.
Donc c'est encore pire.
Voilà, oui, c'est donc c'est encore pire, oui. Parce que ce qu'on voit à la fin, bon, on se dit, bah, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas?
Ouais, je veux dire, il n'y a pas une engeance démoniaque derrière tout
Non,
ça
non,
ou...
non, pour
Ouais,
le moment, en
voilà.
tout cas, pas du tout. Pour le moment,
D'accord,
pas
et
du
donc
tout.
c'est bien ce que je dis, c'est encore pire, quoi.
Et puis surtout, il faut rappeler qu'on est au début du 19e siècle, du 19e siècle, du 20e siècle, 1916, donc bon, voilà, les États-Unis, c'était pas encore des McDo à tous les bouts de rue, à tous les coins de rue. Voilà, c'était, il y avait encore beaucoup de zones justement assez,
Campagnarde, enfin
assez
rurale,
campagnardes, voilà, on va dire ça
plutôt.
comme ça. Mais c'est
Rurale,
ça, voilà,
ouais.
c'est vraiment l'Amérique profonde, et bon, non, enfin, c'est très bien, quoi. Franchement, on est transporté par le récit, et j'ai hâte de voir où ça va aller.
J'ai l'impression que c'est une de tes meilleures de lecture de la semaine.
Oui, quand même, ouais. Oui, quand même.
D'accord, ok. Mais de toute façon, je comptais lire ce truc-là, mais tu m'as donné encore plus envie. Donc...
Bah, ça change de d'habitude, quoi. Des comics de horrifiques, il n'y en a pas tant que ça. Il y a
Non,
Lock and Key.
c'est vrai. C'est publié chez Image, hein, je crois.
Non, si, oui, si, si, oui. Oui, si, oui, c'est Image, oui. C'est Image.
C'est vrai qu'Image fait pas mal d'horrifiques en ce moment.
Mais
Tant
voilà.
mieux, tant mieux. Il en faut pour tous les goûts.
Et toutes les couleurs, et là, ça sera plutôt le rouge qui sera à la mode.
Et on va faire quelques
Ou le
petites
noir,
reviews.
d'ailleurs.
On va faire quelques petites reviews express maintenant. Donc très rapidement, Sweet Tooth numéro 24 que j'ai eu cette semaine par Jeff Lemire. Alors je sais pas, j'ai dû vraiment avoir un problème cette semaine. Je suis tombé que sur des épisodes comme ça où il y avait plein de pages sans dialogue qui se lisent ultra rapidement. J'aime beaucoup Jeff Lemire, c'est très sympa, il y a un style très particulier, c'est très poétique, etc. Mais là on se fait un peu chier. Franchement, dans cet épisode, on se fait un petit peu chier. Dans le dernier épisode, Gus s'était fait tirer dessus. Et donc là, il voyage un petit peu aux portes de la mort. Ouais.
Classique, on va
Pas.
dire.
Ouais. L'arc prendra fin le mois prochain. Voilà, c'est. Je vais pas dire un épisode d'attente, mais voilà, j'ai pas plus accroché que ça à cet épisode. Donc je dirais que c'est à peine un check-it, quoi, pour cet épisode-là.
D'accord.
Étrangement, d'habitude, pour moi, c'est un bail.
Ok, je vais vous parler vite fait du Flashpoint Night of Vengeance, Batman Night of Vengeance numéro 3. Ça clôture ce tie-in à Flashpoint et bah, c'est excellent, vraiment. Eduardo Risso au dessin et Brian Azzarello bien sûr au scénario. C'est vraiment très très bon. Alors le seul reproche c'est que ça se lit super vite. Encore une fois, un comics qui se lit vite. Pas beaucoup de dialogue, mais néanmoins, sans avoir besoin de recourir à beaucoup de dialogue, c'est surpuissant quand même. C'est-à-dire que ça faisait super longtemps que j'avais pas lu un comics qui va me marquer aussi profondément et aussi longtemps à mon avis.
C'est vrai qu'à la fin du 2 était déjà Pau! Tu la prenais en pleine gueule celle-ci.
Ouais, tu l'as lu?
Le 2, oui, mais j'ai pas lu le 3 parce que
D'accord.
justement, je savais pas si t'allais pas le traiter. Donc je voulais pas. J'avais pas envie d'intervenir dans la review malgré moi, tu vois.
D'accord.
Voilà. C'est pour ça que j'avais préféré pas le lire.
Bon, ça se lit très vite, cela dit, le gros de la révélation, voilà, intervenait à la fin du 2, mais là on voit les origines du mal, j'allais dire.
Ouais.
Et voilà quoi, c'est quand même assez marquant, assez graphique, et c'est génial. Le reproche que je ferais à cette mini, c'est que c'est trop court finalement. En 5, il y aurait eu, à mon avis, il y avait encore matière à raconter d'autres choses dans cet univers.
Ouais, mais peut-être justement, le fait que ce soit court comme ça, on l'apprécie aussi d'autant plus. Et que s'il avait fait en 5, il aurait peut-être un peu plus délayé, que ça aurait peut-être été un peu moins passionnant. Des fois, il vaut mieux s'arrêter au pic, quoi. Enfin, tu vois, dire putain, c'est vachement bon, j'en veux d'autres. Et avoir ce sentiment bah, que c'était vraiment très bon, plutôt qu'avoir un truc délayé dans la soupe qu'on nous sait nous faire tellement aujourd'hui, quoi.
Ouais, enfin cela dit, honnêtement, les 3 épisodes back to back, ça doit se lire en un quart d'heure.
Ouais, malheureusement.
Mais bon, ce sera un quart d'heure dont on se souvient pendant des mois, parce que voilà quoi, lecture. Vraiment, histoire de Batman, extraordinaire.
Et j'ai vu beaucoup de gens qui disaient sur le net, mais pourquoi ce Batman ne continue pas, quoi? On a envie d'autres histoires comme ça.
Ah oui, ah oui,
Peut-être que DC répondra à la demande avec des Elseworlds, tout est possible.
Non, non, c'est vraiment excellent. Quelle surprise, Brian Azzarello sur Batman. Il faudrait qu'il... Mais quel dommage qu'il se barre sur Superman, sur Wonder Woman.
Ouais, mais en même
Quel
temps,
dommage.
cette fois-ci, c'est réussi. Moi, son premier run, j'avais pas accroché. Bon, comme quoi, hein.
Attends, c'était quoi son premier run sur Batman?
Broken Bat, Broken City,
Ah oui, ouais.
tu étais bof, quoi. C'était pas
Oh,
génial.
oui, c'est pas pareil, mais bon.
Bah, alors moi, je vais faire vite fait le World of Flashpoint numéro 3. Rex Ogle au scénario, Eduardo Francisco au dessin. On reste toujours, hein, dans l'univers de Flashpoint. Donc, troisième partie, on avait un final à la fin du 2. Excellent, quoi. Le père de cette jeune fille que l'on suit, qui décidait d'empêcher sa fille, de l'empêcher d'utiliser le satellite qui allait tout détruire en Europe, et donc arrêter de force cette guerre entre les Amazones et les Atlantes, se mettre à utiliser la magie. Et donc là, on se dit, waouh, la révélation, quoi. Et alors, le 3, c'est une bouse. Un déluge de bons sentiments inintéressants. Chose quand même très marrante. On voit plus de scènes d'action de cette espèce de bataille finale qu'on a à la fin de Flashpoint numéro 4 dans ce tie-in que dans Flashpoint numéro 4 lui-même. Ça,
Ah
c'est.
tiens, ça me fait penser qu'il y a un truc que je n'ai pas compris du tout dans Flashpoint numéro 4, l'espèce de sorcière, l'enchanteresse.
Oui, moi non plus. Non, j'ai pas compris.
Traîtresse ou pas? Alors je comprends
Je
pas.
ne sais pas. Peut-être. Je crois que c'est un membre des Secret Seven. Donc peut-être qu'il faut avoir lu le tie-in pour comprendre. Je l'ai pas lu.
D'accord, j'ai pas
Le
du tout
premier
compris
m'a
ce qu'elle a
tellement
fait.
fait chier. Le premier Secret Seven m'a tellement fait chier, j'ai pas pu terminer la lecture. Donc, j'ai sûrement pas lu les deux autres, tu vois. Non, merci, quoi. Très peu pour moi. Donc World of Flashpoint 3, ça se termine en plus avec, comme je disais, c'est tout le long, c'est un déluge de bons sentiments et ça se termine en guimauve. Autant le début, le premier épisode de la mini, j'ai trouvé très sympa. Le deuxième épisode était moins bon. Et alors le troisième, c'est une daube. Donc passez votre chemin.
Est-ce que j'ai temps d'en faire encore un?
Ouais, vas-y, fais le dernier de toute
Alors,
façon.
mais justement, le Flashpoint Deathstroke and the Curse of the Ravager numéro 3, fin également de cette mini, et bah là, alors là par contre, pareil que pour toi, hein, c'est mauvais. Je me suis vraiment ennuyé, mais comme un rat mort, c'est terrible. Un rat dans une cale de bateau, puisqu'on
C'est une
suit
salope.
Deathstroke dans sa version pirate, hein, grosso modo, et bah, c'est pas du tout intéressant. Franchement, en plus, ça a quasiment aucun lien avec l'univers, enfin le reste de ce qui se passe dans la saga
Sachant d'autant
Flashpoint.
plus que Deathstroke se faisait buter, je crois, au deuxième épisode. On l'avait vu dans le deuxième Flashpoint se faire
J'avais même oublié, oui.
gentiment exploser. Donc,
Eh
quel
oui.
était l'intérêt de faire un tie-in sur Deathstroke? Enfin, je veux dire.
Ouais. Non, bah alors donc ça te montre certainement ce qui se passe avant pour lui, mais c'est pas passionnant quoi. Il fait la connaissance de Blitz, bon ok d'accord très bien. Il affronte un ennemi commun avec elle pour récupérer sa fille. Donc on voit la
Ravager,
fille
donc.
de. Ouais, voilà, Raven.
Ravager.
Ravager, oui, ouais, excuse. Oh là, oui. Non, non, je fais une révélation à tous. Raven est la vraie fille de Deathstroke. Oh!
Alors que, et en fait, il a couché avec Trigone.
Et voilà, c'est ça.
Bon,
Non, voilà,
à vous
donc,
t'as la scène.
ouais. Non, mais toujours est-il que c'est pas intéressant, quoi. Et puis, c'est long à lire en plus. Il y a beaucoup de dialogues, mais.
Pour une fois, c'est là on se plaint, tu sais.
Mais oui, non, mais il y a beaucoup à lire, mais pour rien, parce que. En plus, Deathstroke est carrément meilleur dans sa version classique. Donc là, c'est ça qui est scandaleux, c'est quand t'as finalement la nouvelle version est encore moins bien que l'ancienne, quoi. Ça sert à rien, quoi.
Ah, disons que c'est une version temporaire, quoi.
Ouais, bah écoute, là, en l'occurrence, en faire un pirate parce qu'il a effectivement un œil de pirate. Bon, on a connu plus inspiré. Jimmy Palmiotti, hein, au scénario, et bah Jimmy Palmiotti, là, pas terrible du tout là-dessus.
Il n'avait peut-être pas son compère Justin Gray avec lui.
Ouais, c'est ça aussi, et peut-être. Bon, alors les dessins, ils sont signés, je sais plus, hein, honnêtement, j'ai plus la liste des deux, mais au début, la première partie, pas mal, et puis après la seconde, celui qui prend le relais, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Voilà.
Bon, super. Donc
Un naufrage.
un passe total, quoi.
Oui, un naufrage, voilà,
Ouais,
pour être
bah,
resté dans le thème.
pour lire une bonne histoire de pirate, allez lire One Piece,
Oui, ça n'a
quoi.
rien à voir, par contre, mais.
Non, mais voilà, enfin,
Ouais.
j'essaye de sauver le truc.
Ouais, voilà.
Autant que possible. Bon, eh bien, c'est la fin de notre épisode de cette semaine. On a bien, finalement, on a fait un épisode normal, quoi.
Ouais.
Je voulais faire court, mais après tout. Je vais quand même donner la réponse à cette fameuse question. Sinon, je risque de l'oublier après. Donc, comme je vous posais la question la semaine dernière, le roi des vampires espagnol, puisque cela avait son importance, et comme c'était un jeu de mollets, donc attention, préparez vos oreilles, ça va saigner, c'est donc Vlad
Alors là, j'ai envie de dire ta-la-ta-ta-la-la.
Voilà. Donc sur ce, vous pouvez nous laisser des hate mail, si vous voulez, à l'adresse
Des insultes.
podcast@comiccity.fr. Vous avez les commentaires ouverts à votre disposition.
Il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas compris. Alors pourquoi Vlad Tapas?
Bah oui.
Quitte à être foireux, explique.
Mais oui, puisque Dracula, donc le roi des vampires, entre guillemets, hein, s'appelait Vlad Tepes. Et donc, en version espagnole, Vlad Tapas. Les petits encas, les tapas, quoi.
Je pense qu'ils ont
Voilà.
compris. Il s'appelait
Voilà.
Vlad Tepes. Et ça se prononçait comme ça, Tepes.
Tepes, je crois. À la polonaise, peut-être.
D'accord, oui, donc nous c'est
Mais non,
dépêche-toi,
mais.
dépêche-toi.
Chez nous, on dit Vlad Tepes, quoi.
La polonaise, très bien.
En même temps, je ne parle pas polonais, donc je n'en sais rien. Et puis je dois avouer que je m'en prends. Sinon, ça foire ma blague, donc non. Voilà. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Je vous promets, il n'y a pas de blague. Pas d'aussi mauvaise, en tout cas. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, on va se quitter avec le traditionnel mot de la fin.
Va pas.
Oh non, non, tu vas pas m'en refaire faire, hein,
Ah,
pitié.
si, 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 si. Ah, si, si, si. Alors là, je
Bon.
t'assure, je n'ai aucune idée d'un mot de la fin. Hein.
Bon, bah, alors je vais me dévouer, je vais vous faire un second jeu de mollet, je donnerai la réponse la semaine
Oh,
prochaine, mais alors
t'en
pitié.
avais beaucoup en stock en plus.
Non, j'en avais que deux. J'en
Eh ben,
trouverai
ça
peut-être un
tourne
pour la semaine prochaine. À moi, je tombe en panne d'inspiration. Donc voilà, donc, ce sont des choses qui me passent par la tête quand je me fais profondément chier au boulot, ce qui arrive de temps en temps. Et donc voilà, on invente des vannes pourries, je te l'avouerai. Donc, mais une matière hein, qui enveloppe les meubles pour les protéger, hein, mais qui est capable de donner le cancer. Et oui. Et donc je vous donnerai la réponse la semaine prochaine.
bien. Mais y a
Bon,
rien de drôle là-dedans.
non, mais c'est un jeu de mots foireux, c'est un jeu de mollet, hein, c'est comme Vlad Tapas, hein, c'est aussi mauvais. Voilà, donc bah, pitié, ne me tuez pas. on se retrouve la semaine prochaine. Et puis bah, advienne que pourra, moi j'ai envie de dire après ça.
Si, achevez-le vite.
Et très bonne semaine et à la semaine prochaine.
Ah, prenez vos médocs, ne faites pas comme Steve et à la semaine prochaine.